Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles, chouette alors, c'est lundi, une nouvelle semaine, et aujourd'hui un sujet dont, je dois vous dire, en 6 ans d'émission La Maison des Maternelles, c'est la toute première fois qu'on en parle, puisque aujourd'hui, nous avons reçu sur le plateau de La Maison des Maternelles, Aline qui est asexuelle et qui est aromantique. Donc autant vous le dire, tabou absolu, c'est-à-dire c'est rarissime d'entendre quelqu'un raconter cela, c'est-à-dire n'avoir aucune forme d'attirance sexuelle ou même romantique pour quelqu'un d'autre, venir le dire, le tout avec le sourire, vous allez l'entendre sans aucune langue de bois, c'était un témoignage assez formidable qu'on vous propose donc de réécouter aujourd'hui, puis derrière on sera avec la psychanalyste Sophie Brown pour analyser tout ça, c'est parti.
Alors si vous pensez que ressentir du désir pour quelqu'un c'est une chose commune, naturelle pour tout le monde, bah, vous vous trompez. Certaines personnes sont asexuelles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas ou peu d'attraction sexuelle pour les autres. C'est le cas d'Aline. Bonjour Aline.
Bonjour.
Vous êtes longtemps sentie différente et malgré votre asexualité, votre aromantisme, vous avez décidé d'avoir un bébé, Joe, qui a aujourd'hui 2 mois. Bah, oui, parce que ça c'est quelque chose auquel on n'avait jamais pensé. Par exemple, même à la rédaction de cette émission, c'est pas parce qu'on est asexuel qu'on n'a pas de désir d'avoir un bébé. À l'âge où les adolescents connaissent un bouleversement hormonal, vous, comment ça se passait au collège? Est-ce que vous pouvez nous décrire qui vous étiez à cette époque, à ce niveau-là?
J'étais un peu dans l'incompréhension, en fait, parce que je voyais bien que toutes les filles, particulièrement avec qui je traînais, s'intéressaient aux garçons, et moi, ça ne me parlait pas. Bon, après, à l'époque, il y avait des personnes qui étaient plus ou moins matures sur ce sujet, donc je ne m'inquiétais pas trop. J'avais des copines aussi qui ne s'intéressaient pas trop à ça. Ça allait. Mais j'ai quand même un moment fini par me dire, bon allez, je vais faire comme tout le monde, histoire de m'intégrer et d'avoir plus de copines. Donc j'ai commencé à dire que moi aussi, j'aimerais bien avoir un amoureux, que oui, le prince Harry était trop beau, ce genre de choses, quoi.
Alors que c'était pas vraiment vrai, quoi.
Enfin, je veux dire, esthétiquement, le prince Harry est beau, mais il ne faisait rien de plus, quoi.
Ça ne vous faisait rien du tout. Vous n'avez jamais été attirée par un garçon de votre âge à cette époque-là?
Alors si, une fois. L'été, entre la 4e et la 3e, il s'appelait Edouard. On était en colo ensemble, on aimait les mêmes choses, le snowboard, on avait vraiment plein de points en commun. J'ai rien fait parce qu'il y avait une copine de colo qui m'avait dit qu'elle était intéressée par lui. Et du coup, le code d'honneur faisait que je ne pouvais rien faire. Au final, maintenant, avec 20 ans plus tard, je réalise que ça m'arrangeait bien cette histoire, hein, parce que finalement, je n'avais pas envie de l'embrasser, ce garçon, je n'étais pas amoureuse de lui. Je pense que j'avais juste en fait envie d'être son amie ou un peu d'admiration, un sentiment d'appartenance. Quoi. J'avais envie que cette personne me trouve cool en fait.
Lui est sa meilleure amie, quoi. Son amie numéro 1.
Je pense que j'avais juste envie qu'il me trouve cool. J'étais là genre, il est cool, je veux qu'il me trouve cool.
Et au lycée, comment ça a évolué?
Au lycée, les choses changent un petit peu, hein, parce que pratiquement tout le monde a eu des expériences avec des garçons, des filles. La moitié de la classe est en couple et tout le monde parle vraiment de sexe, quoi. Et là, j'ai commencé à me dire, ouais, je suis différente, je suis en retard. Même, j'avais des copines qui n'avaient pas de mec, mais au moins, elles s'intéressaient, elles avaient des crushs. Mmh. Et moi, rien du tout. Donc, j'ai quand même essayé d'expérimenter, hein, de faire comme tout le monde. Donc, j'embrassais un garçon en boîte de nuit, j'ai trouvé ça dégoûtant. Je suis sortie un peu avec un copain, je me suis rapprochée d'un copain. Et puis, du coup, une chose en entraînant l'autre. On a fini par sortir ensemble. Un soir, il m'a embrassée en rentrant d'un cinéma, en me raccompagnant chez moi, très, très américain, quoi. Et ça a duré 3 jours, hein. 3 jours où il était charmant et moi, je ne savais pas quoi faire de mon corps. J'étais hyper stressée. Alors, je sais que c'est normal d'être stressée la première fois qu'on sort avec quelqu'un. Mais moi, je crois que ça atteint un peu un niveau de ne pas savoir quoi faire de mon corps qui fait qu'au bout de 3 jours, il a arrêté de me parler. Et j'ai une amie qui m'a dit qu'il m'avait plaquée parce que je ne savais pas m'y prendre.
Ah ouais?
Et là, je me suis dit, ok, c'est vrai. Il y a vraiment une sorte de date de péremption. Il y a un moment où il y a un décalage de compétences, de techniques de shop, quoi. Et je crois que je suis déjà en retard.
Voilà, parce que vous n'aviez pas envie, donc du coup, forcément, vous n'étiez pas dedans. Après, vous avez eu votre bac, après prépa, école de commerce. Là, on sait, c'est la vie étudiante, les fêtes. Là, pour le coup, normalement, on parle beaucoup, beaucoup de ces sujets. Et alors, vous vous situiez comment dans tout ça?
Bah, c'est marrant parce que moi, j'ai toujours un peu parlé de cul, parce que c'est un peu provoque, c'est rigolo. Donc, j'essaye de faire des blagues de cul et je trouvais ça marrant d'en parler. Et je suis quelqu'un d'assez libéré, donc ça m'intéressait vachement, mais pas pour moi. Et donc, c'est vrai que quand tout le monde parle de cul tout le temps, qu'il faut tout le temps avoir l'histoire la plus dingue de son aventure sexuelle, la plus improbable, moi, j'avais rien à raconter et je le cachais pas. Et donc, il y a une partie des gens de l'école qui me trouvaient... Bah, sans même me connaître, qui disaient « Ah bah elle, forcément, si elle n'a pas baisé, elle va être chiante. » Donc il y a une partie des gens qui étaient là genre « Elle ne m'intéresse pas, on ne lui parle pas. » Donc il y avait une sorte d'exclusion assez, assez forte quand même. Et l'autre partie des gens qui, eux, trouvaient ça complètement fascinant. Et il fallait à tout prix me réparer. Donc tout le monde me sortait des conseils que je n'avais pas du tout demandé. Hein. C'était « Ça allait de « Trouve-toi un mec sympa » à « Prends le premier venu » à « Force-toi, l'appétit vient en mangeant, c'est comme la cigarette ». Ça ne me semble pas être vraiment la meilleure chose à faire, mais et c'est ce que j'ai plus ou moins fini par faire.
Bah oui, parce qu'à 22 ans, vous avez sauté le pas.
Et oui.
Vous avez dit, bon, allez, quand même, quoi. Il faut quand même que je sache de quoi on parle.
Ouais, il y avait plusieurs motivations. Il y avait à la fois l'envie de découvrir ce que tout le monde me vantait comme étant quelque chose d'incroyable. Si tu n'as pas connu ça, tu as raté ta vie. L'envie aussi, la peur aussi, en fait, de vraiment passer cette date à partir de laquelle... plus personne ne voudrait de moi parce que je serais vraiment trop incompétente et les gens se diraient je vais pas perdre mon temps avec une personne qui ne sait pas baiser quoi. Et donc voilà, avant la fin de mes études je m'étais donné ça comme objectif. J'ai eu de la chance parce que ma première fois s'est super bien passée. J'étais partie deux trois mois en voyage à travers les États-Unis et le Canada et premier jour où j'arrive je rencontre le coloc d'une amie et il est doux, il est mexicain donc il est un peu dragueur mais super gentil. Et quand on le fait la première fois, je me dis genre, ok. C'est marrant parce que je lui dis, en fait, j'étais un peu stressée. Donc je lui dis au moment où ça y est, on se lance, quoi. Je lui dis, j'ai jamais couché avec un garçon. Et lui me répond, avec une fille non plus, non. Et j'étais complètement hallucinée par à quel point il trouvait ça sans importance, en fait, cette annonce. Alors que moi, ça faisait des années que je me préparais un speech pour expliquer pourquoi est-ce que je ne l'avais pas fait, que non, je n'étais pas une loser, c'était juste... Voilà, un concours de circonstances. Et donc, voilà. Donc, à ce moment-là, une fois que l'acte est passé, je me dis, OK, bon.
Il n'y a pas de dégoût non plus, mais il n'y a rien.
Il n'y a pas de dégoût, mais il n'y a rien. Et c'est marrant parce que je dis à mes amis très proches, je leur dis, voilà, hein, j'ai adoré tout ce qui était autour, les câlins, l'intimité, tout ça, le sexe. Et j'ai toujours pas envie d'en refaire avec lui. Mais en revanche, à toutes les copines qui m'avaient donné des conseils, Je me la pète, quoi. Je suis là, je dis, ça y est, je l'ai fait, je suis une femme, c'était génial. Il y avait vraiment une dichotomie entre ce que je pensais vraiment et ce que j'affichais socialement pour faire plaisir aux gens.
Alors, quand vous êtes rentrée en France, vous avez trouvé un travail, un appartement, c'est là où vous avez dit, ah, mais en fait, je suis asexuelle. Comment est-ce que vous avez mis un mot sur ce sentiment que vous aviez depuis toujours?
Le hasard total.
C'est vrai.
J'avais déjà cherché un peu mon orientation sexuelle quand j'étais rentrée en école de commerce, où je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme les autres. Et là, j'avais regardé tout ce que j'avais trouvé et j'avais vu bisexuel. Bon, je n'étais pas plus attirée par les hommes que par les femmes. Je me suis dit, c'est ça. Mais je n'avais pas vu asexuel. Et je suis tombée sur le mot asexuel au hasard. Je ne sais vraiment plus comment, probablement sur Internet ou à la radio. Et quand j'ai entendu ça, je me suis sentie mais soulagée. Je me suis dit, waouh, je ne suis pas la seule. Donc, je ne suis pas cassée, je n'ai pas une maladie. C'est genre normal, entre guillemets, quoi. Et en même temps, j'avais... tellement peur, parce que du coup, je me suis dit, ça veut dire que je ne vais jamais avoir d'orgasme, que je ne vais jamais vraiment kiffer le sexe, je ne vais jamais avoir la vie d'éclat sexuel dont je rêve. Et puis aussi, je me suis dit, bah, personne ne voudrait être en couple avec moi, parce que dans ma tête, je sais maintenant que c'est faux, mais dans ma tête, on ne pouvait pas être en couple si la personne n'avait pas de rapport sexuel. Et donc, j'allais être malheureuse si je n'étais pas en couple. Et voilà, je n'avais pas compris qu'on pouvait aussi être très heureuse célibataire.
C'est ça, donc ça a été quand même une libération pour vous. Et alors, en filigrane de tout ce que vous racontez là, évidemment, il y a le désir d'avoir un enfant. Et ça, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez asexuelle. Donc, vous faites une PMA en France. Ouais. Ça, c'est déjà quand même formidable, si vous y teniez absolument. Comment est-ce que vous avez vécu cette grossesse, l'accouchement, la création du lien, en vous disant, bah, je suis toute seule et puis j'ai cette spécificité?
Alors, le fait que je sois asexuelle, ça n'a pas changé grand-chose, hein, mon rapport avec mon enfant. En revanche, ce que ça a changé, c'est que je pense qu'inconsciemment, je sais depuis que je suis gamine que je vais avoir un enfant seul. Même si moi, je n'arrivais pas à le dire, au lycée, je m'imaginais réellement des façons dont je pourrais avoir un enfant là tout de suite. Donc j'imaginais que des gens me léguaient un enfant parce qu'ils décidaient que j'allais avoir un enfant après un coup d'un soir. Même si je n'avais pas du tout envie d'un coup d'un soir, j'imaginais que c'était pour moi la seule façon d'avoir un enfant. Donc en fait, j'ai toujours plus ou moins imaginé avoir un enfant seul. Et puis ma vie, en fait, ça fait 35 ans maintenant presque que je suis célibataire. Donc faire les choses de célibataire, pour moi, c'est la norme.
Oui,
donc,
c'est ça. De toute façon, c'est votre vie par défaut. Donc,
c'est ça, ne m'effraie pas. Moi, je trouve ça plutôt bizarre quand les gens me disent qu'ils sont deux à faire les couches. Genre, mais vous n'avez pas besoin d'être deux. Donc, non, ça, finalement, pour moi, c'était assez normal de vivre tout ça toute seule et j'étais très contente de le faire comme ça.
Et donc, ça se passe très bien. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans vous parler du podcast que vous avez créé, qui s'appelle Free From Desire, c'est ça?
Exactement.
On peut retrouver sur toutes les bonnes plateformes.
C'est ça, c'est un podcast en 8 épisodes dans lequel je raconte mon long chemin qu'on a résumé très, très rapidement de découverte de la sexualité et comment ça a changé la façon dont je vois le monde et le couple, le bonheur, les amitiés, la famille, etc.
Bonjour Sophie Braun.
Bonjour.
Merci de revenir sur le plateau de la Maison des Maternelles. Vous êtes psychanalyste et psychothérapeute, auteur entre autres du livre La Tentation du Repli. C'est aux éditions Mots Conduits. Alors, pendant des années, elle s'est sentie anormale, Aline. On l'entend dans son témoignage. Pourquoi est-ce que la sexualité et l'aromantisme, c'est si tabou encore aujourd'hui?
Alors, c'est tabou parce que je crois que la sexualité et le désir, on pense que c'est le moteur de l'être humain, que c'est ça qui fait qu'on a envie de rencontrer un autre. Il y a ce fameux mythe de Platon où les gens, au début, ils sont hermaphrodites, ils sont à la fois masculins et féminins, et du coup, ils ne bougent pas. Et on les coupe en deux, et c'est à partir de là qu'ils vont chercher leur moitié, et là, il y a du désir qui arrive et qui va faire bouger et évoluer l'être humain. Et ce que nous raconte Aline, ça remet en question, en fait, cette représentation-là, cette idée-là. Ce ne serait pas le désir, et notamment le désir sexuel, qui ferait avancer les gens, qui serait leur moteur, il y en aurait d'autres. Voilà. Ça remet aussi en grande partie en question un peu ce que disait Freud, mais qui ne disait pas tout à fait ça. Donc on va laisser ça de côté. Et je crois que ça, c'est important. Alors ça, c'est sur le côté sexuel, sur la sexualité. Et c'est vrai que... Moi, j'essaye, mais j'ai du mal à me représenter une vie dans laquelle on peut se dire « j'ai pas de désir ».
Oui, c'est presque... Vous disiez c'est un moteur, mais c'est aussi presque un objectif de vie, quand même, de ressentir ses émotions.
Oui, et Aline le dit. Elle dit à quel point, effectivement, elle a eu du mal à passer à une autre idée d'elle-même. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a la sexualité et il y a le romantisme. Le romantisme, c'est le fait de tomber amoureux. Et... ça, j'ai encore plus de mal à imaginer qu'on puisse se dire « jamais je ne tomberai amoureux », qu'on puisse se dire « je ne peux pas tomber amoureux, je ne suis pas encore tombé amoureux ». Oui, néanmoins, et je pense que c'est là où il ne faut pas figer les identités, ça peut aussi lui arriver demain matin, peut-être.
Oui, bien sûr. Voilà. Alors justement, on a une question de Florian qui nous envoie une question en vidéo, regardez.
Bonjour, alors je suis assez intéressé par les questions de genre et d'identité depuis un petit moment, et je me demandais... est-ce qu'on est asexuel ou bien on le devient à un moment donné de sa vie en particulier? Merci.
C'est une très bonne question. On est en train de découvrir toutes ces questions-là. On est en train de déconstruire toutes les questions du genre. Et on le voit là, hein, par exemple, le fait qu'on soit trois femmes et un homme sur un plateau de télévision, c'était pas possible il y a encore 10 ou 15 ans, non?
Oui, c'est...
Mais on l'a pris pour justement, Benjamin.
Mais quel homme?
Il y avait des femmes et elles apportaient les cadeaux, vous savez, où elles tournaient les roues. Voilà. Sinon, il n'y avait pas tellement.
Ça a quand même commencé avec des speakerines, quoi. Voilà. Donc, on est en train de déconstruire tout ça et on est dans une révolution et une transformation énorme. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'en fait, on ne sait pas. Et il y a plusieurs hypothèses possibles. Il y a certainement une partie biologique, hormonale peut-être, qui joue.
Donc, il y a de la chimie quand même dans l'affaire?
Sûrement, voilà. Après, il y a aussi, évidemment, quelque chose qui doit se jouer dans l'interaction bébé-maman, bébé-environnement, avec toute la question du corps. Aline, elle a parlé à un moment donné du dégoût quand même. Hein. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un dégoût de son propre corps, un dégoût des corps des autres? Et on est aussi dans un moment de l'histoire où on se sépare un peu de nos corps, encore plus, je trouve, il y a... On vit un peu plus dans nos têtes, un peu moins dans nos corps. Et là, il y a peut-être quelque chose qui se joue comme ça. Je crois que pour l'instant, on ne peut pas répondre à cette question-là.
Mais on vit une période qui est fascinante, qui est passionnante, parce que les tabous sautent, parce qu'on peut réfléchir à ces questions, là où, il y a une génération, c'était tabou absolu. Ah bah, notamment la question de l'homosexualité. Je veux dire, un gamin, un enfant qui se posait des questions là-dessus, il se taisait, quoi.
Absolument. Alors, il faut vraiment se dire que ce ne sont pas des maladies, ça, c'est une évidence. Hein.
Ni des déviances.
Ni des déviances.
Enfin, c'est une évidence, mais c'est récent.
C'est récent que ce soit une évidence, mais c'est une évidence. Comme l'homosexualité était encore considérée comme une maladie jusqu'en 1974, c'est il n'y a pas très longtemps.
C'est l'année de ma naissance, et donc j'ai tout changé, quoi. Je suis arrivée sur Terre, je dis bon, maintenant les gars, vous arrêtez.
C'est très récent finalement. Hein. Donc là aussi, on continue ça.
On a reçu une question d'Olympe qui dit « Est-ce que le fait d'avoir un parent asexué et aromantique peut influencer la construction sexuelle et amoureuse de l'enfant ?»
Ben, de toute façon, je pense que la sexualité et le psychisme des parents, évidemment, a une incidence sur la construction de l'enfant. Donc ça aussi. Après, comment est-ce que les parents le vivent ? Je crois que c'est ça la question. Si c'est une assignation à une identité aussi pour l'enfant, bien sûr, ça va peut-être forcer quelque chose. Si les parents le vivent en se disant c'est pas identitaire même pour eux, c'est juste un fait comme ça, et les enfants leur donnent la liberté, parce que c'est pas identitaire, c'est ça moi que je trouve intéressant. Alors, comme on est dans les premières générations, peut-être que les gens qui le vivent ont besoin que ce soit identitaire, un peu comme les féministes du début, on a besoin que ce soit identitaire. Mais en fait, il faut que ça reste libre et souple. Et des parents qui vont avoir du mal avec la sexualité de leur enfant, il peut y en avoir alors qu'ils sont hétérosexuels, et il peut y avoir des gens asexuels qui n'ont pas de mal avec la sexualité
Aline,
de leur enfant.
Et Aline, elle était quand même très libre dans sa manière d'en parler. Hein. C'était, c'est ça qui était fascinant. C'est
absolument.
Sophie Braun, est-ce que, alors c'est peut-être une question piège que je vous pose, mais est-ce que dans la littérature, dans l'histoire de la psychanalyse, vous avez beaucoup entendu parler de cas similaires à celui d'Aline tout à l'heure ?
Ça commence.
Ça commence.
On commence. Alors, je crois que oui, je crois qu'en même temps, ça existe depuis très très longtemps. Mais ça n'avait pas forcément ce nom-là. Des gens qui n'avaient pas envie de sexualité, je crois qu'il y en a toujours eu. L'amour est un sentiment, en tout cas l'amour comme base du couple, ça a à peu près une centaine d'années ou 150 ans. Avant, les gens se mariaient et fondaient des couples sur des questions de propriété, sur des questions pour avoir des enfants qui allaient s'occuper d'eux après, quand ils seraient vieux. L'idée de l'amour est une idée, en tout cas comme base du couple, est une idée extrêmement récente, en fait. Donc, qu'on la déconstruise aujourd'hui n'est pas finalement si étonnant que cela. Mais nous faisons partie des générations qui avons vécu dans ce mythe-là, en tout cas. Voilà. Maintenant, il se redéconstruit. Il n'existait pas avant. Il évolue.
On peut imaginer à l'inverse qu'il y ait plus de gens qui se ferment les yeux et qui refusent de reconnaître que l'amour, ils le subissent plus qu'autre chose.
Oui, on voit bien quand même que l'amour comme base du couple n'est pas d'une solidité totale. Dans les villes aujourd'hui, on a plus d'un couple sur deux qui divorce. Donc oui, ça pose aussi ces questions-là. Alors après, entre l'amour comme base du couple, l'amour romantique, tel qu'effectivement il est défini, et le fait de se dire « je vais rester seule et je vais avoir un enfant seul », il y a encore...
Il y a un chemin.
Il y a un chemin.
Parce que l'amour évolue, c'est ça aussi que vous voulez dire. C'est-à-dire l'amour des premiers jours ne dure pas toute la vie, mais après on...
Voilà.
On devient des colocs qui s'apprécient, quoi. C'est ça le...
Oh là, c'est
réjouissant. C'est plus que ça.
On a hâte vraiment le coloc qui s'apprécie.
Mais si on s'apprécie.
Bon. Oui. C'est super, vraiment.
L'amour, c'est multiforme. L'amour, ça a plein de formes.
C'est ce que je voulais dire.
Voilà.
Ça se transforme.
Ça se transforme, mais ça reste de l'amour. Je crois que c'est important. C'est ce que disait Aline aussi. Elle ne dit pas forcément qu'elle va rester toute seule. Elle dit juste que... effectivement, ces relations avec un autre privilégié ne vont pas forcément dépendre ni de la sexualité, ni d'un amour passionnel comme on les connaît aujourd'hui.
Alors, Katel vous demande avoir... non, ce n'est pas cette question-là que je voulais poser. Elle a disparu, cette question, tant pis. En fait, il y a quelqu'un qui posait une question qui disait, voilà, est-ce que le fait d'être asexuel et heureux en couple peut avoir une incidence ensuite sur l'éducation des enfants ?
Alors, oui... C'est une question très compliquée. Je crois que la sexualité des parents, l'enfant n'a pas à rentrer dans l'intimité de la sexualité de sa mère, de son père ou du couple parental de toute façon. Ça, je crois que ça reste important. Alors, si effectivement le fait d'être asexuel est très identitaire pour la mère, par exemple, et qu'elle essaye de le transmettre à son enfant, oui, ça, c'est compliqué. Si par contre elle le vit bien, que c'est assez souple psychiquement pour elle et qu'elle va laisser une sexualité se développer chez son enfant, ou pas de sexualité d'ailleurs, ça, c'est, ça va être le problème de l'enfant, alors je pense que là, ça n'a pas forcément d'incidence importante.
Mais techniquement, les personnes qui sont asexuelles, quand elles sont en couple, elles embrassent l'autre personne ou pas ?
Je pense que oui. Alors ça, c'est toute la question que vous posez, c'est où commence la sexualité ? Je pense que ça va être différent pour chaque personne. Il y en a pour qui ça va être un baiser sur la joue qui peut déjà être de la sexualité. Il y en a pour qui ça peut être un baiser sur la bouche, etc. Jusqu'où ça s'arrête ? Est-ce que c'est être dans les bras de quelqu'un ? Est-ce que c'est faire l'amour ? Est-ce que c'est la pénétration ? Est-ce que c'est aussi les préliminaires ? Enfin, je veux dire, ça, je pense que, ça, à mon avis, ça doit être différent pour chaque personne.
Et donc, on ne l'explique pas forcément alors à l'enfant, parce que c'est vrai que ce qu'on voit, ce que l'enfant va voir autour de lui, dans les films, etc., ça ressemblera pas forcément à ce qu'il voit chez lui. Est-ce que du coup, à ce moment-là, on ne lui explique pas qu'on vit les choses différemment que...
Moi, j'ai le sentiment qu'il n'y a aucune raison de raconter à son enfant la sexualité qu'on vit. Et je pense qu'un enfant, d'une façon générale, n'aime pas l'idée de la sexualité des parents. Et que pour vivre sa propre sexualité, il a besoin de se séparer de ça.
Oui, il faudrait qu'il ne sache jamais que ses parents sont asexuels. Quoi. A priori, si on fait bien notre boulot de parent, on ne sait pas que nos parents font l'amour et on ne sait pas qu'ils ne le font pas. Quoi, en fait.
Exactement. Moi, je ne vois pas bien pourquoi ça serait identitaire à ce point-là.
Oui, c'est ça.
Et puis, il y a aussi des tas de couples, finalement, qui vivent ensemble et qui sont des parents et qui n'ont pas de sexualité. Il y en a qui en ont beaucoup. Et jusque-là, je pense que ça a évidemment inconsciemment des effets sur l'enfant. De là, lui en parler consciemment, je ne suis pas sûre que ça apporte quelque chose, si ce n'est, d'une certaine façon, le mettre dans le lit des parents, ce qui, dans un sens ou dans l'autre, ce qui ne me paraît jamais une bonne idée.
Peut-on être asexuel et tout de même tomber amoureux ? On vient de recevoir cette question.
Oui. On distingue aujourd'hui la question sexuelle de la question romantique et effectivement, ça se distingue de plus en plus. Donc il y a des gens asexuels qui tombent amoureux, il y a des gens qui ont une sexualité qui ne tombent pas amoureux d'ailleurs, ça on le sait bien, et tout est possible. C'est ça qui fait aujourd'hui, quand on parle des genres et qu'on voit qu'il y a 20 ou 30 genres aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans des combinaisons en fait entre la sexualité, l'attirance romantique et son genre biologique. Hein. Pour le résumer, on peut être une femme, on peut tomber amoureuse d'un homme et avoir envie d'une sexualité homosexuelle. Voilà. Alors ça fait déjà une combinaison. Et puis si on rajoute les neutres, les asexuels, les transgenres, etc., là on arrive effectivement à des combinaisons. Ça c'est nouveau, c'est cette façon aussi justement de distinguer le biologique du genre que l'on ressent et de l'attirance sexuelle et de l'attirance romantique. On tombe amoureux de quelqu'un, pas forcément avec une attirance sexuelle. Ce qui, moi, dans ma génération, n'était pas envisageable. Enfin, je ne l'entendais pas comme ça. Les nouvelles générations le distinguent comme ça.
Nathan vous demande s'il y a beaucoup de personnes qui sont asexuelles et aromantiques.
Alors, j'ai trouvé juste une étude qui dit que dans la population mondiale, il y a 1% de gens qui se disent asexuels.
C'est énorme.
C'est énorme. En même temps, je ne sais pas très bien comment on fait une étude comme ça, parce qu'à mon avis, dans la population mondiale, il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher de l'eau potable et pas tellement de se demander s'ils sont asexuels ou pas.
Est-ce que tout ça, ce n'est pas très citadin, en fait. Je me demandais que cette parole libérée, etc., c'est 20 genres, 30 genres ?
Même plus,
dont vous parliez, etc. J'ai toujours l'impression qu'en fait, c'est des préoccupations des villes, quoi, que je ne sais pas. Mais c'est peut-être un a priori. Hein.
C'est en tout cas des préoccupations extrêmement occidentales, modernes et urbaines, effectivement. Maintenant, tous les mouvements de transformation et de déconstruction partent effectivement quand même des bourgeois citadins. Enfin, voilà. Alors après, est-ce que ça va continuer ou pas ? Ça, c'est une vraie question. On ne sait pas très bien comment ça va évoluer. Mais Ça donne beaucoup plus de liberté, ça c'est une évidence, à chaque individu, mais ça lui donne aussi un sentiment, enfin, comme toute liberté, il y a aussi plus d'inquiétude, plus d'angoisse et plus d'énergie à mettre sur la construction. Hein. Quand on nous disait « vous êtes né garçon, vous êtes un garçon, et un garçon c'est comme ça », on ne mettait pas d'énergie à se construire garçon, ça nous était imposé. Alors, c'est moins de liberté, évidemment, on est plus enfermé. Mais en même temps, on n'a pas à se poser la question de qui on veut être, comment on veut être.
Ça peut faciliter les choses quand on se construit. Ouais,
alors, c'est à la fois ça facilite et ça enferme.
Et ça enferme. Hein.
Aujourd'hui, on est beaucoup plus libre, on est moins enfermé, mais c'est plus difficile, du coup, de se construire individuellement.
Peut-on devenir asexué à 30, 40 ou 50 ans après avoir eu une vie sexuelle normale, entre guillemets, et des enfants?
Alors, évidemment, déjà, le mot normal est compliqué.
C'est pour ça qu'il y a des guillemets,
voilà,
je pense.
Vous avez mis des guillemets. Après, moi, je pense que c'est déjà arrivé à des tas de gens dans les générations d'avant. C'est-à-dire que, oui, il y a un moment où peut-être...
En fait, on parle pas d'être asexué, on parle juste de plus avoir la tête
alors,
à autre chose. Quoi,
voilà. Est-ce que c'est parce qu'on a moins de désir? Est-ce que c'est parce qu'on vit depuis 50 ans avec la même personne et qu'on a moins de désir? Il y a aussi des gens qui gardent une vie sexuelle jusqu'à 100 ans. Et magnifique, et tant mieux. Hein, et vraiment, et parce que c'est quand même aussi une source de plaisir, de relation, d'intimité. Enfin... Il y a cette notion d'intimité à deux qui disparaît, ou à trois, je ne sais pas, qui disparaît et qui est un peu dommage, je trouve aussi. Cette idée de la relation à l'autre, hein, qui disparaît un petit peu, mais qui va se faire autrement. Enfin, voilà, et c'est là où aussi on est dans la déconstruction. Alors oui, moi je crois que bien sûr, on peut maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par asexuel?
Alors c'est ce que j'allais là dire, aussi. Si c'est pénétration la question, là d'accord, et en revanche il y a tout le reste quoi.
Voilà, est-ce que c'est, justement, c'était la question que vous posiez tout à l'heure, à quel moment on commence à parler de sexualité?
Une caresse dans le dos,
Aline, il n'y a rien. Hein, Aline, dans son témoignage, un bisou, c'est, elle dit, moi, c'est comme si j'étais pas apte quoi.
C'est comme si le corps ne réagissait pas, n'avait pas de plaisir aussi, et ça nous pose aussi quand même des questions, parce que moi, je reste avec le sentiment quand même que biologiquement, notre corps est fait pour avoir des caresses, pour toucher l'autre, pour être touché, et que je ne sais pas comment ça se compense non plus psychiquement de ne pas avoir ça. Hein.
Et du coup, on a quelqu'un qui nous demande si les asexuels peuvent avoir du plaisir eux-mêmes, seuls, se faisant plaisir seuls.
Ou est-ce que oui, c'est ça. Est-ce que c'est le corps de l'autre qui vous rend asexuel, ou est-ce que c'est en règle générale? Elle a dit qu'elle dit, ah bah tiens, j'aurais jamais d'orgasme. Donc, a priori, je pense qu'elle, c'est même pas
a priori, il ne doit pas y avoir de masturbation non plus. Mais je pense que ça dépend là aussi des gens. Et peut-être ça repose la question de tout à l'heure du biologique ou de la construction psychique. Peut-être qu'il y a des gens qui, biologiquement, n'ont pas cette capacité au plaisir ou au désir et qui donc vont effectivement même pas avoir du plaisir eux-mêmes et se masturber. Et d'autres, par contre, qui sont peut-être plus dans le dégoût du corps de l'autre ou dans une difficulté de relation au corps, à leur propre corps et au corps de l'autre, et qui, là, n'auront pas du tout de capacité de se toucher ou de toucher quelqu'un d'autre. On est aussi sur un spectre, on n'est pas sur une réalité, on est sur un spectre. Enfin...
Vous avez un problème avec les questions, peut-être, Benjamin? Yasmine, vous en avez eu?
Je vais me demander si on continue ou pas.
Allez, non, il y a des questions, mais du coup, on peut aller plutôt sur les mamans solo, la PMA. Christelle vous dit...
C'est Benjamin.
J'ai eu ce qu'on appelle un bug technique.
c'est pas vous, en fait. C'est ça, ce que je veux dire, c'est que c'est pas de sa faute.
Si, c'est de ma faute. Séverine vous demande quelle est la réaction des parents suite à l'annonce de la sexualité.
Non, mais il est incroyable. Il se réveille, du coup, c'est à lui, quoi. C'est le mec, quoi.
Allez. On va lire chacun notre question, vous répondez à la meilleure.
Allez-y,
la réaction des parents suite à l'annonce de la sexualité, vous demande Séverine.
L'annonce des parents de la sexualité. Alors, quand
de
on
la
dit
sexualité, à l'apostrophe.
A avec un A privatif, de la non-sexualité. Non, mais c'est vrai que du coup, le terme est compliqué. C'est pareil, je ne sais pas à quel moment on l'annonce, je ne sais pas à quel moment on dit. On l'a bien entendu dans le témoignage d'Aline. Elle a toute une période où quand même elle essaye, elle se demande, elle ne sait pas. Puis tout d'un coup, elle se dit, ben non, en fait, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'à ce moment-là, on va annoncer ça à ses parents? Je ne sais pas, il y a sûrement un moment où effectivement on en parle, mais en même temps, voilà, ça aussi, ça pose la question de l'intimité. Qu'est-ce qu'on raconte de sa sexualité? Est-ce qu'on est obligé de dire à ses parents qu'on n'a pas de sexualité ou qu'on en a?
Je ne sais pas.
Peut-être pas.
Merci beaucoup, Sophie Brown, et merci surtout à Aline d'être venue se raconter sans aucun tabou et avec cette légèreté qui nous a tous fait plaisir. On a trouvé que c'était un très bon moment que cette rencontre avec Aline. Voilà, nous on se retrouve demain mardi sur France 2 à 9h28, pour être précis, 28 et 30 secondes si je ne dis pas de bêtises. Et d'ici là, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à me suggérer des thèmes de podcast. Ciao tout le monde.